références publicitaires viennent de la Bible, tout à fait dénaturées, bien entendu, mais elles viennent de la Bible. Ce qui veut dire qu'on table sur un patrimoine culturel conçu comme universel. Je vous ai dit que dans le premier chapitre de la Genèse, l'homme apparaissait comme le prêtre, l'homme et la femme, apparaissaient comme les prêtres de l'univers, les officiants de ce monde. Donc ils ont un rôle à jouer de sanctification, de bénédiction, à apporter dans ce monde. Et on peut y voir également l'importance de la contemplation de la réalité créée, cette contemplation intérieure dont dans les proverbes et dans le livre de Ben Sirac, je viens de vous citer deux extraits, cette contemplation du sage, c'est aussi la contemplation qui fait vivre l'humanité. Il faut qu'il y ait des hommes, des femmes dans ce monde qui ne fassent rien d'autre que cela. Okay. Le sens de la vie, c'est de reconnaître cette présence de Dieu. Et c'est important pour le monde. C'est une tâche qui incombe à un certain nombre de personnes, pour le monde entier. Il faut construire ce monde, mais il faut dire aussi sur quoi il est construit. Donc le premier texte est un texte qui va dans un sens tout à fait liturgique. Et bien sûr, ce n'est pas pour rien qu'il est structuré en sept. Prenez bien, les sept jours qui vont structurer l'humanité dans sa route historique, à telle enseigne qu'aujourd'hui encore, nous sommes structurés de cette manière, sans savoir pourquoi, la plupart du temps. Et à partir de là, il est peut-être utile de se poser la question, et elle m'a été posée, quel est le rapport qu'il peut y avoir entre les sept jours, le septième jour, qui est le jour du sabbat, que nous appelons le samedi, nous, aujourd'hui, et le dimanche? Est-ce que c'est une transposition? Est-ce que dans le christianisme, on a remplacé tout simplement le sabbat par le dimanche? Mais il s'agit de la même réalité. Non, ce n'est pas tout à fait pareil. Vous savez que l'islam fête son jour saint de la semaine, car il utilise la semaine aussi, le vendredi, le sixième jour, le jour de la création de l'homme. Et il commémore effectivement la création, le vendredi, parce que c'est le sixième jour. Commémore la création, l'homme est créé, créature de Dieu, donc dépendant de Dieu, et il est soumis à Dieu. Il est mis sous Dieu. Il est avec sa limite, en face du transcendant. Il y a un rapport bien sûr personnel, entre Dieu et l'homme, mais Dieu est absolument transcendant. Et donc l'homme est mis sur la terre pour servir Dieu, et pour servir Dieu dans sa création et dans ses frères. Et il y a toute une loi écologique également dans le Coran. Donc islam, ce n'est pas l'homme qui a l'initiative des choses, c'est Dieu. Et pour dire cela, vous avez une phrase qui sonne dans nos oreilles comme étant la phrase de la résignation, ou le mot de la résignation, c'est Maktoub. C'est écrit comme ça. On n'y peut rien, les choses sont ainsi, c'est écrit. Et donc, on célèbre le jour sacré, le vendredi, jour de la création de l'homme, jour de l'islam par excellence, jour de la soumission à la présence de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a l'initiative. C'est cela que cela veut dire. Alors, il faut qu'on voit comment on le vit, autre chose. Mais c'est vrai pour nous aussi, cela. Les Juifs, en raison même de ce texte, et de tous ceux qui sont connexes dans la Bible, placent son jour saint le samedi. Ce que nous appelons le samedi, hein, le jour du Shabbat. Et il l'appelle Shabbat, parce que c'est le Shabbat de Dieu, ce qui est, comme je vous ai dit, ce point final mis par Dieu, c'est-à-dire la restriction mise par Dieu lui-même à sa puissance créatrice. Savoir, s'arrêter. Et non pas s'arrêter simplement pour le plaisir de s'arrêter, mais pour découvrir que le principe de mon être, ce n'est pas moi. J'agis pendant toute la semaine, parce que Dieu s'est retiré dans la coulisse le septième jour, et après avoir créé, il a laissé l'homme, puisqu'il l'a pourvu de puissance créatrice, avec la semence, il a permis à l'homme d'être créateur avec lui, mais il y a une différence entre la perception de l'islam et la perception juive. Dans la perception de l'islam, c'est Dieu qui fait tout. Ici, c'est dans la perception juive, c'est Dieu qui donne à l'homme de faire. Il avait créé pour faire. Il donne à l'homme de faire. Mais comme l'homme pourrait mettre la main sur ce qu'il fabrique, il pourrait mettre son emprise sur le monde qu'il construit, il va s'arrêter un jour par semaine, il va s'arrêter pour ne pas devenir prisonnier de son travail, prisonnier du profit, prisonnier du confort, prisonnier de l'argent, il va s'arrêter pour dire Dieu est présent. C'est grâce à lui que j'ai le pouvoir de faire. D'où l'importance de la prière. La prière mettant l'homme en état d'attente, de méditation devant l'autre. C'est l'autre qui existe. Pas moi tout seul, mais lui qui existe. Donc cette importance du jour saint, cette importance aussi de la prière avant le repas, avant une action facile ou difficile, pour prendre du recul. C'est Dieu qui doit être, qui doit exister d'abord dans ma vie et me donner le principe de l'agir. C'est lui qui m'a créé. D'où l'importance de ce Shabbat, le samedi. Et le chrétien. Le premier jour de la semaine, disent les évangiles, ou plus exactement le jour 1 de la semaine, donc c'est le lendemain du sabbat, Jésus est ressuscité. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous et par rapport à la création? Et pourquoi Jésus ressuscité n'a pas laissé de traces de son corps dans ce monde? Pourquoi tout a été assumé et donc est devenu invisible, insensible à l'homme? Et c'est très important cela. Parce que c'est toute la réalité humaine dans son corps d'homme, et le corps de Jésus, le corps humain de Jésus, est lié à tous les corps de toute l'humanité, indissociablement. Une matière est toujours liée à toute la matière. Et donc Jésus, disparaissant avec son corps, signifie que toute la réalité corporelle est donc créée, est assumée en Dieu, en espérance. En espérance. Dans ce point de l'humanité qu'est Jésus lui-même. Et tout cela est assumé en Dieu. À charge pour nous de le vivre après lui, puisque nous faisons partie de son corps. Et donc, ça, c'est un moment important. Et donc, nous sommes les fous qui croyons que le huitième jour est déjà présent. Nous sommes encore dans le septième jour. Le jour où Dieu s'est retiré et il nous fait vivre. Et donc, nous pouvons encore vivre, comme le juif d'ailleurs, cette alternance de sept jours, marquée par le Shabbat. Et nous vivons le dimanche, quelque chose que ni le juif ni le musulman ne vivent, nous vivons déjà cette espérance, mais réalisée dans la résurrection de Jésus, cette espérance que le huitième jour est déjà présent dans ce monde. Nous sommes déjà en train d'être assumés. Notre résurrection a déjà commencé. Et donc, nous sommes dans le huitième jour, et cependant, ce huitième jour va se confondre de nouveau avec la réalité de la semaine, la rentrée dans la semaine. Donc, nous sommes déjà sauvés ressuscité, présent à la Trinité, et en même temps, pas tout à fait encore. Nous ne sommes pas encore devenus Jésus. Et donc, il est bon de voir que le sabbat a sa célébration propre, sa célébration de préparation, et le dimanche a sa célébration propre, qui est engagement dans la vie, mais comme signe du ressuscité assumant ce monde. Et cette cohésion des trois jours est intéressante aussi. Mais il ne faut pas tout mêler. Le sabbat n'est pas devenu le dimanche, même si on a remplacé le commandement du sabbat dans les commandements de Dieu, le commandement du Sinaï, même si on l'a remplacé par le dimanche. Ce n'est pas exactement la même chose. À partir de la création et à partir du sens de l'humanité, il y a une différence. Voilà donc pour le premier chapitre. Pour les chapitres 2 et 3, et ça c'était surtout le plan de Dieu, la sagesse de Dieu présente à l'humanité et que nous avons à découvrir à travers une vie liturgique. Et cette vie liturgique, nous en avons besoin parce qu'elle nous redit sans cesse la présence de Dieu. Quand on ne prie plus du tout, on n'a plus conscience de cette présence. Oui.
Quel est le genre de l'esprit en hébreu ? La sagesse ne pouvait pas être l'Esprit Saint.
C'est très difficile à dire. Chokma, la sagesse. Et c'est vrai, c'est un terme féminin. Et certains pères de l'Église l'ont rapproché évidemment de Sophia. Et Sophia est un attribut, l'esprit de sagesse est un attribut de l'Esprit Saint. Et en même temps, on le rapproche, ce sont des questions que nous posons souvent à nos étudiants, s'il y a identification pure ou pas tout à fait identification, on le rapproche également de la parole. La sagesse s'identifie à la parole, parce que la parole est active. On dit, Dieu dit, et ça se fait. Donc la parole est active. Tandis que la chokma, la sophia, est parole, mais elle est aussi comme un courant. Elle n'est pas seulement la parole, elle est une vie. Et c'est vrai que dans le terme de sagesse, on peut de temps en temps appuyer le terme parole, et donc plutôt Jésus, sagesse annoncée est venue. C'est dit comme ça dans le Nouveau Testament. Et en même temps, sagesse va du côté de l'Esprit Saint aussi.
Mais l'esprit en hébreu, c'est quel genre ?
Rouach, féminin. Rouach, féminin, oui.
Et pourquoi est-ce que Jésus dit celui qui me mange, je n'aurai plus jamais faim ?
Ah, parce qu'il en est la source. Ici, c'est la sagesse de Dieu, et à part, il y a encore une non-identification, une distinction entre Dieu lui-même et la sagesse. En Jésus, il n'y en a plus. La parole de Jésus veut montrer que la distinction, ce qui était distinct, est maintenant a disparu, et il y a identification totale entre lui et la sagesse. Et sagesse est un terme qui peut être utilisé de Jésus, il a été utilisé, et cependant on l'utilise aussi de Marie, la sagesse, c'est des sapientiae, le siège de la sagesse. Mais le siège de la sagesse est en Jésus, elle est le siège dans lequel Jésus réside, la tente dans laquelle la sagesse réside, ça c'est des sapientiae, le siège de la sagesse. Et vous voyez, c'est un langage qui est en train de se former, de balbutier. Et il n'y a pas encore cette distinction. Jésus va manifester les distinctions en parlant dans des termes personnels. Dans des termes personnels. Il va parler du Père et il va parler de l'Esprit en termes personnels. Ici, ce ne sont pas encore vraiment, ce ne sont pas des identifications. Les Juifs diront que dans des textes comme ceux-ci, ce sont des attributs de Dieu. L'esprit est un attribut de Dieu, la parole est un attribut de Dieu, pour faire la distinction avec la personne de Dieu lui-même. Et vous voyez, ce qui est intéressant dans les livres de sagesse, c'est que à travers toute une poésie, vous comprenez bien que ces textes sont d'ordre poétique, à travers toute une poésie, on comprend quelque chose de beaucoup plus intérieur. Et on essaye de le balbutier, de le dire, comme d'ailleurs notre langage aussi. Hein. Et c'est vrai que le langage dogmatique qui est précis, qui a cet avantage d'être précis, et où il y a des distinctions, ne fait pas toujours découvrir toute la richesse de la vie qu'il y a derrière. Alors, dans le deuxième texte de la création, nous avons, bien sûr, une sorte de focalisation sur l'humanité, mais aussi sur la personne humaine. C'est raconté de telle manière que, hein, on puisse découvrir deux personnages, Adam et Ève. C'est aussi présent dans le texte, même si on parle d'Adam comme étant l'humanité, l'humain en général. Qu'est-ce qu'on essaie de découvrir? On essaie de découvrir, au fond, la problématique de la liberté de l'homme. L'homme dans son monde, avec sa responsabilité, et donc c'est toute une réflexion sur l'avènement de l'homme à la véritable liberté. Je ne me découvre que dans la création. C'est mon monde. J'ai été placé dans ce monde. J'ai été placé. Je ne me suis pas placé. J'ai été placé dans ce monde. D'où je viens? D'où je viens, mais je suis un être un, j'ai mon unité, j'ai ma personnalité propre, ma dignité humaine, je suis une personne, donc il y a quelque chose d'unique en moi. Cet unique ne peut venir que d'un unique. Et pourtant, je ne me découvre unique que face à l'autre. Et c'est d'ailleurs ce qui apparaît dans le texte. L'homme se trouve d'abord face à Dieu, et puis il se trouve en face à face. Avec les animaux, ça ne marche pas, et pourtant il y a de l'animalité en lui. Et puis avec la femme, il se trouve en communion. Et il découvre en quelque sorte la réalité de Dieu à travers la communion, hein, entre homme et femme. Et ça apparaît comme un dogme absolu dans le judaïsme. La question que j'ai le plus entendue lorsque j'étais à l'école juive, c'est « Haïm Atanasoui, est-ce que tu es marié ?» Je dis non. « Comment ?» Alors tu es un yored, un tir au flanc. Tu es quelqu'un qui refuse le dessein de Dieu. Vous voyez, ça va loin. Tu refuses le dessein de Dieu parce que Dieu a dit « Croissez, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. » C'est le tout premier commandement. Le tout premier. Donc, le devoir de procréer. C'est important. Alors, il m'interrogeait pour savoir si j'avais peur de procréer, peur de la vie. Vous voyez, d'où ça venait. Et alors, il fallait leur expliquer, et on peut leur expliquer, bien sûr, à partir de gens comme Jérémie, hein, ou bien de Qumran, ou encore d'autres, il y a moyen de montrer que on peut aussi faire Shabbat. Hein? C'est une expression que j'utilisais aussi. On peut faire Shabbat dans sa vie, c'est-à-dire mettre un point, c'est-à-dire rester en deçà, mais toujours pour quelque chose de positif, pour manifester la fécondité de Dieu. Si c'était pour manifester simplement une stérilité ou une solitude, ce serait contre le texte. Donc il faut manifester qu'il y a croissance et multiplication. Croissez, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Hein? Il faut bien leur montrer qu'il y a peut-être un chemin à côté de cette union conjugale, il y a peut-être un chemin qui est dans le plan de Dieu. Qui est dans le plan de Dieu, parce que s'il n'est pas dans le plan de Dieu, alors hein, ça vient d'ailleurs. Ça vient du cercle. Et il y a moyen, il y a eu pas mal de discussions sur le sujet, avec les uns et les autres, mais c'est intéressant, vous voyez, de réfléchir avec eux sur des textes comme ceux-là, qu'ils connaissent évidemment beaucoup mieux que nous, généralement. Alors ici, qu'est-ce qui est dit dans ce texte? Il est dit justement que l'homme et la femme, donc bon, l'homme et la femme sont responsables devant Dieu. Il y a toujours un troisième. Et un troisième pour que l'un ne puisse pas mettre la main sur l'autre. Pour qu'il y ait toujours contemplation et accueil de part et d'autre. Et c'est extrêmement difficile, parce que l'un et l'autre, c'est déjà dit dès le départ, sont limités. Et notre désir, cette force qui vient de l'image de Dieu en nous, est en soi illimité, puisque Dieu est illimité. Donc il y a un désir illimité, et ce désir doit s'arrêter, doit être content, trouver son content dans la réalité limitée, dans l'autre. L'autre est image de l'autre avec un grand A, mais il n'est pas l'autre. Il est le chemin vert. Et donc cela apparaît dans le texte, dans la première partie du texte, le chapitre 2, pour manifester à quel point l'homme et la femme doivent se donner à l'un à l'autre la présence de Dieu. Et doivent laisser à l'un et à l'autre se révéler en eux-mêmes cette présence de Dieu. C'est déjà le mystère de la visitation, le mystère de toute rencontre humaine, le mystère de la rencontre de l'homme et de la femme, vont trouver leur accomplissement dans toutes les visitations de Dieu et notamment de Jésus, dans l'humanité, à commencer par cette visitation des deux femmes enceintes, Élisabeth et Marie. C'est un peu dans ce sens-là que le texte est proposé. Il y a une limite, la limite de la solitude qui pourrait enfermer l'homme, parce qu'il est fini, comme on le disait hier, il est fini, il est limité. Et donc il faut trouver dans sa limite un lieu qui puisse, où puisse advenir la rencontre. Ma limite est le lieu où je vais rencontrer l'autre, où je vais recevoir de l'autre et je vais donner à l'autre, chacun donnant du sien, du plein ou du vide, ce qu'il a. Mais c'est important de voir que tout cela est déjà présent dans ce texte. Mais la limite est là. Et la limite se trouve en moi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que je vais transcender ma limite en l'acceptant? Ou bien est-ce que je vais m'enfermer dans ma limite en ne l'acceptant pas et en ne regardant qu'elle? Et voilà le serpent. Le serpent, c'est l'homme qui dit « Je ne suis que cela. Vie, mort. Vie, je ne me suis pas fabriqué. Mort, je ne sais pas quand je mourrai, je ne sais pas comment mourir. » Et alors, je voudrais bien avoir bas sur ma vie et sur ma mort. Et donc, je me mets à la place de celui qui m'a fait vivre et qui me reçoit dans la mort. Et je veux me mettre à sa place et je veux décider moi-même de ce qui est bon pour moi et de ce qui est mauvais pour moi. Et ça, ce péché originel-là, nous le commettons tout le temps. C'est pas quelque chose qui a été au début et qui a comme laissé une trace ou un virus à travers l'humanité. Nous le pensons comme ça. Et ça a un sens de le penser comme ça. Ça a un sens. Il ne faut pas rejeter cette image. L'image, c'est l'image d'un récit. Mais en même temps, lire ce texte, c'est découvrir jusqu'à quel point nous sommes pécheurs et en même temps ouverts à la miséricorde de Dieu. Car le résultat de tout ce chapitre troisième, c'est que Dieu m'assume et que Dieu me protège. Mais que Dieu me dit, ben voilà, tu es mortel, l'arbre de vie, ce n'est pas toi qui va te donner la vie, ce n'est pas toi qui va aller prendre l'arbre de vie, elle va t'être donnée gratuitement, il faut que tu puisses la recevoir. Et cet arbre de vie, dans la L'Apocalypse, je vous l'ai dit, le dernier chapitre de l'Apocalypse, hein, cet Apocalypse, c'est cet arbre de vie, hein, c'est la vie que Dieu donne par la résurrection de Jésus et la nôtre, que Dieu donne au monde. Voilà donc où nous en sommes. Je vous lirai un petit, j'ai lu, Paulette m'a passé un livre amusant, Le septième jour de Jean Dutour. Il y a quelque chose d'intéressant, je n'ai pas tout lu, hein, j'ai regardé une chose ou l'autre. Qu'était-ce que l'arbre du paradis terrestre au fruit duquel il ne fallait pas toucher, suivant Ève? Quelle maladie mortelle inocula-t-il aux imprudents qu'ils mangèrent? Il n'est pas possible que le Créateur leur ait interdit de s'en approcher, comme d'un livre qu'ils ne devaient pas lire. Le venin contenu dans le fruit était bien plus meurtrier que la révélation du mal, quelque scandaleuse que celle-ci pût paraître dans un univers intégralement voué au bien. C'était quelque chose qui n'était ni hideux, ni effrayant, qui n'offrait aucun contraste avec la grande paix du jardin d'Éden, et qui au premier abord se présenta comme un bienfait supplémentaire. Toujours, hein, nous sommes toujours tentés sous l'apparence du bien. Toujours un bien, on ne cherche pas un mal. Il faut être vraiment déjà très perverti pour chercher un mal. On cherche toujours un bien. Et même l'agressivité vient justement hein, d'une peur qu'il faut combler. La maladie communiquée à Adam et Ève par le fruit n'a pu être que la raison, ou plus exactement, l'esprit rationnel, qui au lieu de leur ouvrir les yeux comme ils le crurent, les a fermés sur tout un domaine spirituel où ils se promenaient auparavant à leur gré. C'est intéressant, une manière de réfléchir. Cela s'est fait de façon à la fois immédiate et insensible, ainsi que les infirmités qui viennent si lentement aux vieillards qu'ils ne s'aperçoivent pas de la déchéance de leur corps. Pis encore, le fruit les a coupés en deux, ne les laissant plus connaître d'eux-mêmes ce qu'ils pensaient consciemment. Une part de l'homme est entrée dans les ténèbres. Dieu lui-même est devenu hypothétique. Hein? La partie divine qui est en moi a été coupée. Il n'y avait pas de place pour lui dans l'univers de la raison. Il fait évidemment allusion à la raison, hein, la déesse raison hein, de la Révolution française. Il était incompatible avec la logique, avec la réalité telle qu'elle se présentait, avec l'organisation progressive de la société, si ce n'est sous forme de souvenirs ou de nostalgie, avec les guerres, les haines, les dévastations, les horreurs en tout genre. Dieu n'était incontestable que dans un univers complètement irrationnel et fondé sur l'amour. Depuis le fond des temps, les hommes expriment leur regret de cet univers-là et leur antipathie pour le maître auquel ils se sont donnés en quittant Dieu. C'est pas mal dit, vous voyez ? Eh bien, c'est un peu cela. Le péché produit en nous, et c'est ça la mort au fond, le péché, c'est pas la mort de vieillesse ou de maladie ou d'accident. Le péché produit en nous une dichotomie. Il coupe quelque chose en nous. Il coupe l'homme de sa source, de sa spiritualité. Et c'est ça auquel nous ne sommes pas suffisamment attentifs. Le péché étant un retour sur soi, finalement, ce retour sur soi nous coupe de la présence divine. Nous ne sommes plus devant quelqu'un. Et c'est ça la difficulté et le manque de repères d'une société comme celle-ci. Au moins, je pourrais dire, l'idolâtre avait encore un certain nombre de valeurs qui étaient pour lui au moins des absolus, que ce soit la fécondité, que ce soit l'amour, que ce soit même l'argent, ou le commerce, peu importe, c'était des valeurs. Et des valeurs qui avaient en quelque chose d'absolu. Nous en avons encore aujourd'hui des valeurs absolues, mais nous ne les reconnaissons plus comme telles, parce que nous ne pouvons plus les repérer vous les faire dépendre d'une valeur absolument absolue. Et ça, la difficulté. Il n'y a plus une valeur absolue. Il n'y a plus une vérité. Il n'y a plus un bien. Le bien commun, c'est un peu une sorte de négociation. On va voir jusqu'où on peut aller. Et vous voyez, dans les négociations que l'on fait constamment, c'est cette optique-là du bien commun qui prévaut. Il n'y a pas quelque chose qui est absolument valable pour tous. Qu'est-ce qui est absolument valable pour tous? Ben, maintenant, on met en avant la dignité humaine, les droits de l'homme, les droits. Et les droits de l'homme, c'est beaucoup moins que la dignité humaine. Ça va dans le sens, mais c'est beaucoup moins. Comme me disait un rabbin, les hommes discutent sur les droits de l'homme, mais ils sont incapables par eux-mêmes de les donner, ces droits de l'homme. Il faut que Dieu soit présent pour qu'ils le découvrent. Et je crois que c'est vrai. Vous voyez, ce texte est fait pour nous faire réfléchir. Il n'est pas fait pour nous donner des solutions. Et ce sont les problèmes fondamentaux de l'homme. Et nous en arrivons à ce monde d'aujourd'hui dans lequel il y a de la violence et ce principe de la violence vient d'être donné. Le principe de la violence, c'est de me mettre à la place de ce principe unique dont je dépends et dont je voudrais bien ne pas dépendre. Et c'est à partir de là que vous avez, quand la femme a été appelée vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. C'est à partir de là, en dehors du jardin, le jardin, c'est un peu regardé comme l'utopie, le monde tel que Dieu le rêve, la sagesse. Et maintenant, là où je suis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'humain connut Ève, sa femme, et elle fut enceinte, et elle enfanta Caïn. Voilà que ce qui était déjà présent en germe devient maintenant présence réelle. Elle enfanta Caïn. Et elle dit, pour expliquer le nom qu'elle lui donne, Caïn, Caïniti, Caïn, j'ai acquis un homme avec le Seigneur. Vous remarquerez qu'elle ne nomme même pas Adam. J'ai acquis un homme avec le Seigneur. Le principe, c'est le Seigneur. C'est très curieux. J'ai acquis un homme, pas j'ai acheté. Les biblistes et les rabbins discutent éperdument sur le terme de j'ai acquis. Caniti. Caniti peut vouloir dire j'ai acheté. Mais ça peut vouloir dire aussi j'ai créé. Et elle ajouta. Ah, pardon. Et elle ajouta d'enfanter, oui, c'est-à-dire elle continua d'enfanter, mais en hébreu on dit elle ajouta d'enfanter, c'est-à-dire elle enfanta en plus. Et attention ici, son frère Abel. Donc, Caïn, c'est celui qu'on a acquis, de par Yahvé, de par Dieu. Et Abel veut dire buée. Rien du tout. Vanité des vanités, tout est vanité, dit comme Kohelet. Hein? Hevel Havalim, c'est le même mot. Abel des Abel. Hein? Vanité des vanités, tout est vanité. C'est rien, c'est trois fois rien. Comme nous disons, trois fois rien. Abel, c'est insignifiant. Insignifiant. Son frère. Curieux, hein? Caniti, et puis hein, le Caïn, ça c'est celui qu'on acquiert. Et puis nous avons la buée, le rien. Et il fut Abel, pasteur de petits bétails, et Caïn était servant d'humus. Nous dirions agriculteur aujourd'hui. Hein? Bon. Et intéressant de voir que vous avez déjà hein, les deux professions primitives dans la civilisation. On quitte la chasse et la cueillette. Et on en arrive à l'agriculture et l'élevage. Ben, ils pouvaient faire une société intéressante, hein, en se mettant ensemble, non? Abel et Caïn. Voilà. Et ici, vous voyez, nous sommes exactement sur le même pied. Deux frères, ils viennent de la même souche. Adam et Ève viennent de la même souche. Ils sont deux frères. Et ils sont tout à fait semblables. Il n'y a pas un frère et une sœur, vous voyez. Le texte est mis pour nous faire réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la fraternité. Son frère Abel. Et on introduit le terme. Et il arriva qu'au terme des jours, quel jour? Il fit venir Caïn, bah, quand il s'en rend compte, quoi, ou bien le jour du Shabbat, je n'en sais rien, ça ne nous est pas dit, au terme des jours. Il fit venir Caïn, c'est une manière de dire il offrit, hein. Il fit venir, il apporta. Il apporta Caïn du fruit de l'humus une offrande pour le Seigneur. Ah, hein? Il va reconnaître d'où il vient. Et Abel fit venir aussi les prémices de son petit bétail et de leur graisse. Voilà. Donc chacun apporte de sa profession, de son travail, pour l'offrir au Seigneur. Pour dire, c'est toi qui es le maître de tout cela. C'est toi qui nous as donné de travailler la terre. Et alors, chose tout à fait étrange, et il considéra, nous pourrions traduire, il accueillit le Seigneur, Abel et son offrande. Mais Caïn et son offrande, il ne considéra pas. Donc il n'accueillit pas. Et cela arda, brûla pour Caïn fort, et elle tomba sa face. Hein, quelqu'un qui a une mine d'huile, hein, c'est ça, elle tomba sa face, c'est-à-dire son visage, autrement dit, il déprima, hein, en termes d'aujourd'hui. Elle tomba sa face, c'est-à-dire il déprima, il se met à déprimer. C'est étrange cette affaire-là, parce que, voyez, on ne dit vraiment pas pourquoi. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que Dieu accueille l'un et n'accueille pas l'autre. Il n'y a pas de raison. Bon, les rabbins cherchent bien une raison dans le fait que le sol avait été maudit, et donc ils travaillaient le sol, donc ils travaillaient une matière maudite. Mais enfin, ce n'est pas suffisant. Et justement, l'étrange dans ce texte, c'est qu'il n'y a pas de raison. Alors, ça peut nous faire percevoir Dieu comme arbitraire ou Dieu comme libre. À chacun de voir quel est l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais que nous avons mangé. Mais Caïn et son offrande, il ne considéra pas, et cela arda pour Caïn fort. Oui, mais n'oubliez pas que Caïn était l'aîné. Il avait le droit d'aînesse. Hein? Donc, il était habitué à ce qu'on lui donne, hein, à ce qu'on réfère tout à lui. C'est l'aîné. L'autre était un souffle, un rien du tout. Et voilà que Dieu renverse, vous voyez, il renverse les affaires. Celui qui n'a rien, il l'agrée. Et celui qui a des tas de trucs, il ne le regarde même pas. Oui, il y a quelque chose qui est dit à travers ce texte quand même, malgré tout. Dieu renverse l'ordre du monde. Et le Seigneur, il dit le Seigneur à Caïn, pourquoi cela arda-t-il pour toi, hein? Pourquoi est-ce que tu te mets en colère? Pourquoi est-ce que tu brûles? Et pourquoi ta face tomba-t-elle? Pourquoi est-ce que tu te déprimes? Il n'y a aucune raison. Est-ce que si tu agis bien, tu la relèveras, ta face, hein, ta face qui tombe, qui déprime, si tu vas la relever, ta face. Mais si tu n'agis pas bien, à la porte, un péché est tapis. Et le mot est tapis est utilisé dans du vocabulaire animal. Hein, il est tapis comme une brebis, comme un bœuf est tapis. Un péché est tapis. Donc, ou bien tu relèves ta face et tu me reçois comme un cadeau, ou bien tu te tournes vers toi, mais alors tu vas vers l'animalité. Un péché est tapis, et vers toi son élan. Et tu vas en plein vers l'animalité. Donc voilà de nouveau le processus de la liberté qui est enclenché. Si tu n'agis pas bien, à la porte ou à l'ouverture, littéralement, un péché est tapis et vers toi son élan. Mais toi, tu gouverneras sur lui, tu peux dépasser cette affaire-là. Il y a de la jalousie en toi, mais tu peux la dépasser. Et il dit Caïn à Abel son frère. Est-ce que vous avez quelque chose après vous autres? Eh bien, ça, c'est pas dans le texte. Il dit Caïn à Abel son frère. Et il ne parle pas. Alors, ça fait aussi une question chez les rabbins, ça. Hein? Alors, on supplée, évidemment, allons dehors, on supplée. Et de fait, certaines traductions l'ont suppléé. Mais le texte hébreu n'en parle pas. Au fond, Caïn n'a pas de parole. Il n'a que des gestes. Et c'est son tort. S'il s'était mis, hein, disent les rabbins, s'il s'était mis à parler avec Abel et à dire ce qu'il avait contre lui, eh bien, on aurait pu négocier et on aurait pu se réconcilier. Mais il dit rien. Et il passe tout de suite à l'acte. Et il dit Caïn, et vous remarquerez que maintenant on dit, et il dit Caïn à Abel son frère, Abel son frère. Il dit. Et il arriva, quand ils furent dans le champ, il se dressa Caïn vers Abel son frère, et il le tua. Et il dit le Seigneur à Caïn, où est Abel ton frère? Où est? Drôle, il dit, où est? Il avait dit aussi à Adam, vous vous rappelez? Adam, où es-tu? Où? Où te trouves-tu? Hein? Où te trouves-tu? Il faut que tu te situes. Où te situes-tu? Où est Abel ton frère? Et il dit, je ne connais pas. L'humain avait connu Ève, sa femme, et lui ne connaît pas. Je ne connais pas. Est-ce que gardien de mon frère, moi je suis? Et il dit, qu'as-tu fait? La voix des sangs de ton frère porte plainte vers moi de l'humus. La terre qui a bu le sang porte plainte vers moi. Et maintenant, maudit sois-tu de l'humus. Voilà la première personne qui est maudite ici. Maudit sois-tu de l'humus qui a ouvert sa bouche pour prendre de ta main les sangs de ton frère. Et ton frère, cette fois. Quand tu serviras l'humus, il ne continuera pas de donner sa force pour toi. Errant et fuyard, tu seras sur la terre. Et voilà que le statut de Caïn change. Il était fixé à la terre, il était agriculteur, et le voilà qui devient errant et fuyard, nomade. Et il dit Caïn au Seigneur, trop grande est mon iniquité pour la lever. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de la face de l'humus. Et de ta face, je serai dissimulé. Et je serai errant et fuyard sur la terre. Et tout qui me trouvera me tuera. Il a tué, on peut le tuer. Voyez ? Il a fait entrer la spirale de la violence sur la terre. Et bien cette violence peut maintenant continuer à agir. Il arrivera que tout qui me trouvera me tuera. Je suis devenu tout à fait vulnérable.
Il tue son frère. Qu'est-ce qu'il pourrait le tuer, lui? Pas ses parents, quand même.
Le premier venu. Mais voyez bien, hein? Ça, c'est le clin d'œil de l'auteur. Nous pensons, évidemment, mais jusqu'ici, il y en avait quatre, et maintenant, il n'y en a plus que trois. Et puis après, vous allez voir qu'il se marie avec qui, l'autre? Hein? Oui, mais ça, c'est le clin d'œil de l'auteur. Et vous dites, je sais très bien que je ne parle pas des premiers, hein. Je parle d'une civilisation où il y a des nomades et des sédentaires. Et où il y a de la bagarre entre les uns et les autres. Hein? Je parle d'une civilisation. Mais je mets ça sous des noms. Pourquoi? Parce que je veux avoir une belle hiérarchie qui descende. Mais les rabbins se posent des questions comme celle-là. qui est le premier venu? Tout qui me trouvera, mais qui va me trouver? Est-ce que c'est Adam qui va me tuer? Est-ce que c'est Ève qui va me tuer? Il n'y a plus d'autres maintenant, il n'y a plus que deux. C'est pourquoi tout qui me tuera, c'est pour Adam. Et il lui dit, le Seigneur, c'est pourquoi, hein, à cause de ce que tu me racontes, tout qui tuera Caïn, cette fois il sera vengé. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais enfin, c'est la vengeance. C'est le processus de vengeance qui existe, bien sûr, dans les tribus nomades. Qui tuera Caïn, cette fois il sera vengé. Ça, c'est la représaille. Hein. Je tue quelqu'un, on m'en tue sept. Et il mit le Seigneur à Caïn un signe pour que ne le frappe pas tout qui le trouvera. Et les rabbins se posent la question de savoir quel est ce signe, évidemment. Hein? Quel est ce signe? Est-ce que c'est un tave? C'est ce que les pères de l'Église ont dit, un tave, c'est le signe de la croix. Et vous avez, c'est à Autun, je crois, Dieu qui a Caïn qui est à genoux devant lui et qui lui fait sur le front un signe de la croix. Magnifique. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a un chemin, il y a un chemin de la miséricorde de Dieu à travers le péché, même à travers la violence. Il dit, c'est vrai, hein? Maintenant que tu as fait entrer la violence dans le monde, hein, la violence ne cesse pas et elle devient septuple. Et il mit le Seigneur à Caïn un signe pour que ne le frappe pas tout qui le trouvera. Les rabbins disent évidemment que le signe qu'il a mis sur Caïn, c'est le yod, le signe de Yahvé, hein, ou Shin, Shaddai. Et il sortit.